Il est 19h, presque 22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que le salaire qui compte quand on cherche un travail. C'est la première leçon de la reprise des négociations dans le secteur de la restauration qui peine à embaucher. On l'a déjà dit, ici même, le retour des confinements a aussi changé la donne pour certains salariés. Revenir, oui, mais pas n'importe comment. Cette pandémie aura servi de catalyseur. Je ne sacrifie plus ma vie à mon travail. En janvier, on a donc négocié les prix dans ce secteur. Une nouvelle grille de salaire minimum a été signée, plus 16%. Ce qui compte cette fois, ce sont les conditions de travail. Premier round de négociation donc ce mardi. Il y en aura deux autres en mars et puis en mai. En jeu, il y a les jours de compensation accordés pour les week-ends travaillés. Il y a les coupures dans le service. Ceux qui travaillent, disons, 3 heures le matin, qui s'arrêtent pendant 4 heures, qui retravaillent 3 heures le soir. Il y a aussi, c'est peut-être là que le bât blesse vraiment d'ailleurs, un troisième mois et des primes le dimanche. Ça va être compliqué et pourtant, certains restaurateurs ont déjà compris qu'il fallait bouger leur organisation, inventer des choses pour que les salariés aient envie de rester et n'aillent pas courir dans la grande distribution par exemple, où les dimanches sont payés en heures sup. C'est un peu une révolution. Alors vous qui êtes resté chez votre patron parce qu'il a changé vos horaires, vous qui êtes parti parce que désormais les week-ends travaillés à chaque fois, c'est non. Vous qui avez aménagé les conditions de travail dans votre établissement, vous qui ne voyez pas comment faire, on vous attend, c'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous, Jean-Sébastien. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, Fabienne.
Bonsoir, on vous écoute, Jean-Sébastien.
Oui, ben voilà, moi je suis chef de cuisine depuis 2007 et c'est un véritable travail d'abnégation, quoi. Parce que vous travaillez de 9h à 15h. De 18h à 23h, avec des patrons rarement professionnels et agréables, alors que j'adore ce métier. Et le truc, c'est que voilà quoi,
Allez-y.
Quand vous êtes plombier, il faut un diplôme. Quand vous êtes menuisier, il faut un diplôme. Quand vous êtes restaurateur, vous achetez un restaurant et vous êtes restaurateur. Et on vous met la pression, pas possible. C'est des cadences infernales parce que il faut évidemment que les tables tournent. Là, moi, je travaillais en zone touristique, donc il fallait que dans un service, les tables tournent trois fois.
Et du coup, Sébastien, est-ce que ça veut dire que vous dites que vous adorez votre travail? Est-ce que ça veut dire que des fois vous vous dites il faut que je change, il faut que je voie les choses différemment? Est-ce qu'on s'est posé la question dans l'établissement où vous travaillez de changer les horaires de travail, qu'il y ait moins de coupures au milieu, qu'il y ait des différences avec les week-ends? Est-ce que vous en avez parlé ou pas du tout?
Ben là, pour le moment, je suis sans emploi parce que j'ai arrêté.
D'accord.
Mais par contre, comme je disais à votre collaborateur, je suis masochiste et demain, je me présente à un poste. Donc, parce que voilà, dans les restaurants, il se passe des choses vraiment magnifiques. Il y a des déclarations d'amour, il y a
Et on entend ça, Jean-Sébastien, est-ce que vous mettez des choses sur la table ou est-ce que vous dites tant pis, je repars comme c'était le cas avant, avec les mêmes cadences infernales?
Ben là, le resto dans lequel je vais postuler demain, ils sont très bien notés sur TripAdvisor pour avoir une bonne ambiance. Donc voilà, je fais attention à ça. Et parce que je vous dis quoi, les patrons qui viennent, qui vous gueulent dessus pendant le service, c'est abominable quoi. C'est les cadences quoi.
Merci.
Les cadences.
Jean-Sébastien, on vous souhaite, on croise les doigts pour vous, pour cet entretien demain, si c'est vraiment l'endroit où vous avez envie d'aller travailler. On espère que ça va bien se passer pour vous. Et merci beaucoup vraiment pour cette entrée en matière, pour discuter ensemble autour de ce sujet. Et jusqu'à 20h, Olivier Guivarch est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de la CFDT Service. Et Didier Chenet est là également. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne et bonsoir Olivier.
Président du Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie et de la Restauration. L'un après l'autre, Olivier Guivarch, est-ce que vous reconnaissez, vous reconnaissez les gens avec lesquels vous vous échangez très régulièrement dans le tableau qu'a brossé Jean-Sébastien de son travail?
Oui, je crois que tout est dit avec ces témoignages, c'est-à-dire que d'un côté, on a le sentiment que les horaires sont difficiles, qu'ils s'accordent difficilement avec la vie personnelle. C'est ce que pensent d'ailleurs 28% des salariés du secteur contre 17% en moyenne. C'est aussi le fait que les salaires sont encore trop bas. Un sentiment d'être mal payé. Là aussi, on a plus de salariés qu'ils pensent dans le secteur que la moyenne. Mais on a aussi le témoignage d'un salarié, Jean-Sébastien, qui se sent utile,
ouais, qui adore son
et qui aime son métier. Et là, on voit aussi dans les statistiques que le sentiment d'utilité chez les salariés du secteur de l'hôtellerie-restauration, ce sentiment, il est fort. Plus 7 points par rapport à la moyenne. Donc d'un côté, des salariés qui aiment leur métier, qui ont envie de bien le faire, mais de l'autre, des mentalités qui doivent évoluer.
Didier Chenet, vous l'avez vu bouger, j'imagine, parce que c'est pas une nouveauté réellement qu'il y ait des problèmes d'embauche et des discussions autour des conditions de travail dans ce secteur-là. Et c'est vrai, je le disais, que la pandémie a été un vrai catalyseur, et c'est la raison pour laquelle ces négociations aujourd'hui existent. Vous avez vu bouger, j'imagine, cette mentalité. Est-ce qu'on dit qu'il y a effectivement une petite révolution dans ce secteur-là et qu'on ne repartira plus comme on repartait autrefois?
Absolument. C'est clair que, si vous voulez, le Covid a mis en exergue la difficulté de, je dirais, rendre compatible vie professionnelle et puis vie personnelle. Et donc, pendant le Covid, eh bien, la totalité de nos salariés qui étaient à l'arrêt ont pu profiter d'une vie personnelle qu'ils ont presque découvert pour certains. Donc, c'est aujourd'hui le problème et la difficulté et le sujet qu'il nous faut résoudre. Nous avons, grâce, je dois le dire, à Olivier Guivarch et son organisation, pu signer une nouvelle grille de salaire avec des augmentations
très substantielles. Parce qu'effectivement, la CFDT, c'est le seul syndicat qui a signé les
16%. Absolument, je salue sa responsabilité. Et si vous voulez maintenant, eh bien, nous devons nous attaquer. C'est ce que nous avons fait cet après-midi en retenant un certain nombre de dates et créations de groupes de travail, notamment à la qualité de vie au travail.
Mais est-ce qu'il y a des
nous en sommes parfaitement conscients.
Mais est-ce qu'il y a des lignes rouges, Didier Chenet? Et je vous poserai la question aussi, Olivier Guivarch. Est-ce qu'il y a, parce que la liste, elle est longue. Il y a du 13e mois, il y a des majorations d'heures sup, il y a un week-end sur deux non travaillé. Ça aussi, c'est sur la table. Il y a des jours de repos par semaine qui sont consécutifs. Et quand on lit ça, j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui se disent, évidemment. Est-ce qu'il y a quand même des lignes rouges où vous, depuis votre responsabilité à vous, vous dites, ouais, mais ça, on pourra pas?
Écoutez, concernant l'aspect 13e mois ou des paiements donc du travail du dimanche très supérieur à ce que l'on fait aujourd'hui, nous ne sommes pas en capacité de répondre à cette demande. Je dis bien aujourd'hui parce que nous sortons à peine de la crise et nous avons donc un équilibre financier à trouver. En revanche, pour ce qui concerne donc bien entendu la coupure, pour ce qui concerne le repos hebdomadaire, pour ce qui concerne même le travail de nuit, c'est quelque chose sur lequel nous allons engager donc les discussions et les négociations.
Olivier Guivarch, pas en capacité, dit Didier Chenet. Dans ces cas-là, quand on dit pas en capacité, ça veut dire fermer le banc, passons à autre chose. Pas en capacité, comment vous recevez ça, vous, la CFDT?
Ce soir, on est à la fin de la première séance de négociation. Ce qui est sûr, c'est que l'accord salarial que nous avons trouvé, notre capacité d'engagement, elle s'appuie sur la promesse d'une négociation sur les conditions de travail. Cette négociation sur les conditions de travail, elle doit aboutir à des dispositifs qui sont concrets pour les salariés. Donc évidemment, il va falloir qu'on entre dans le dur sur l'indemnisation et l'encadrement de la coupure dans la journée. pourquoi pas en rapport avec le taux horaire, de manière à ce que ce soit aussi proportionnel. Et puis, la durée de la coupure, bien sûr, qui doit être encadrée. Le repos le week-end, je crois qu'il est temps de réguler ça aussi pour donner envie à des salariés de s'investir dans ce secteur. Et le travail de nuit, comme l'a dit Didier Chenet. Mais on va arriver à des négociations. Il est temps de rentrer dans le dur, là. Je dirais que c'était une première séance. On a une autre séance le 29 mars et encore une autre le 31 mai. Les salariés attendent avant l'été des mesures concrètes.
Concrètement, combien, est-ce qu'on sait chiffrer, j'imagine qu'on sait chiffrer, combien de salariés ne sont pas revenus après cette pandémie qui a été effectivement un catalyseur, exactement pour ces raisons-là. Si je citais tout à l'heure l'exemple de la grande distribution, c'est pas pour rien, parce que dans ce qui est notamment des plus jeunes, l'idée d'aller vers la grande distribution, précisément, c'est pour ces raisons-là, parce que le dimanche est payé souvent double, ou en tout cas en heures supplémentaires. Est-ce qu'on sait réellement combien de personnes ont décidé que cette fois c'est fini, je n'y retournerai pas? On l'a ce chiffre ou pas?
C'est très difficile de répondre. On a la DARES qui a évoqué des chiffres, mais le problème c'est que il faut toujours un petit peu de temps entre le moment où on peut observer un phénomène, on peut le chiffrer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de salariés qui ont quitté le secteur. Ça c'est sûr et certain. À la fois dans la restauration, mais aussi dans l'hôtellerie, parce que on parle d'un secteur qui comprend les hôtels, les cafés et les restaurants. C'est une convention collective qui englobe tous ces établissements. Là, il y en a plusieurs centaines de milliers. En tout, c'est 1,2 million de salariés de l'hôtellerie-restauration. Et l'hôtellerie, café, restaurant, c'est 63% de ces 1,2 million. Donc c'est sûr qu'il y a des dizaines de milliers de salariés qui ont été découragés et qui n'ont pas souhaité continuer cette activité lorsque le premier confinement a pris fin.
En vous lisant, Didier Chenet, pour préparer cette émission, vous citiez 100 000 à 120 000 personnes qui ne sont pas revenues. Vous dites même que 15% des établissements pourraient fermer. Il y a le feu à la maison, en fait, dans la restauration, non ?
Oui, mais nous sommes parfaitement conscients. Et je rajouterais, nous avons aussi les traiteurs organisateurs de réception, dont il ne faut pas oublier. Non, mais nous savons parfaitement que nous avons un souci. Nous ne sommes pas les seuls, je ne vous cache pas, puisque on sait qu'il y a d'autres métiers qui sont en très forte tension. Mais nous le savons, nous avons parfaitement identifié où se trouvaient les problèmes et les problèmes, je le disais tout à l'heure, de qualité de vie. À nous, effectivement, de travailler. Olivier Guivarch l'a rappelé, donc prochaine réunion le 29 mars, nous avons mis à l'ordre du jour deux points déjà, qui est, bien comme je l'ai dit tout à l'heure, la coupure et le travail, donc le repos hebdomadaire. Ce sont des points très importants, nous en sommes parfaitement conscients, et je pense que c'est à nous de nous réinventer. Vous savez, il y a un certain nombre de restaurateurs, d'hôteliers, mais qui ont déjà, je dirais, revu leur organisation, parce que c'est vrai qu'à l'embauche, et là, les professionnels me le disent, quand vous embauchez, eh bien, l'une des premières questions, le salaire, il y a une grille de salaire qui est prévue. Je dois dire aussi que ce matin, cet après-midi, nous nous sommes mis d'accord sur une grille de classification, ce qui est très important, parce que ça va avec la grille de salaire. Vous avez une classification, donc vous pouvez prétendre à un salaire. Ça, c'est très important, c'est en corrélation. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc nous avons, donc pour ce qui concerne l'embauche, c'est vrai que les premières questions qui viennent de la part des nouveaux embauchés, c'est qu'en est-il de mes horaires, qu'en est-il de la coupure, qu'en est-il de mes week-ends? C'est clair, on le sait. Donc il faut qu'on arrive à trouver une solution, mais je vous le dis tout de suite, il y aura à la fois des propositions que nous pourrons faire, mais vous avez des professionnels qui ont déjà anticipé et qui aujourd'hui, alors après c'est une question d'équilibre économique, mais qui ont aujourd'hui décidé de fermer 2 jours par semaine consécutivement, qui ont supprimé la coupure pour certains quand ils le pouvaient compte tenu de leur effectif. Pour d'autres, c'est plus compliqué.
Ou qui font qu'un seul service à midi, par exemple. Preuve au fond que c'est faisable. Et on a un peu l'impression, quand même, en écoutant tout ça, et depuis la fin des confinements, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission, Olivier Guivarch, qu'on y va doucement, les restaurateurs y vont. Ils y vont contraints et forcés, parce que là, ce sont les salariés qui ont les données en main. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont les salariés qui ont les données en main et qui, lorsqu'on arrive pour se présenter un job, peuvent dire effectivement non, pas moi, pas dans ces conditions-là?
L'hôtellerie-restauration, ça a toujours été un secteur qui a eu du mal à être attractif. Hein. Ouais. C'est-à-dire que la pénurie de main d'œuvre, c'est quelque chose de structurel dans ce secteur.
Mais pour ces mêmes raisons d'ailleurs. Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut donner envie à des salariés d'y rester. Ce n'est pas encore une fois le métier et le goût du travail qui manque, c'est simplement les conditions autour. Et il faut vraiment faire évoluer le secteur parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Et même si les salariés ont un peu plus la main actuellement, de toute manière, il faut évoluer avec la société.
Retour au standard avec Anne. Bonsoir Anne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Anne.
Alors moi j'aimerais parler de la situation des saisonniers. Donc j'habite dans le Var, sur la presqu'île de Saint-Tropez. Mon fils est étudiant et chaque année il fait les saisons. Les conditions de travail qu'on lui propose sont, moi je trouve, carrément honteuses. À savoir, donc lui il commence à travailler en début de saison, en général au mois de mai. Mais au mois de juillet, au mois d'août, c'est 0 jour de repos, donc c'est 7 jours sur 7. Et les horaires de travail, c'est 10 à 12 heures par jour. Alors, oui, ils sont bien payés. Mais parce que c'est sur la presqu'île de Saint-Tropez, donc il y a des pourboires relativement importants qui permettent. Il faut quand même reconnaître aussi que pour les saisonniers, ici, se loger, c'est carrément impossible. Donc ils ont souvent une chambre minable qu'ils louent, on va dire 800 ou 900 euros, s'ils arrivent à en trouver une par mois. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est comment ça se fait qu'ils osent proposer des conditions de travail pareilles. On sait très bien que travailler 7 jours sur 7, c'est totalement illégal. Or, c'est quand même ce qui se fait dans la plupart des cas ici, pas partout, hein, mais dans au moins 70% des cas, en faisant travailler les gens de manière, mais vraiment, quoi, en les pressant comme des citrons.
Merci Anne.
C'est la situation des saisonniers, en fait. Parce que dans la restauration, en général, on peut peut-être arriver à trouver des aménagements. Après, je suis bien consciente qu'il y a une grande demande, mais le personnel est vraiment pressé, quoi.
Olivier Guivarch, là-dessus, il y a encore on dit qu'il y a de très gros trous dans la raquette, on va le dire comme ça.
Ah oui, ça fait des années que tous les étés, la CFDT accompagne des saisonniers pour faire valoir leurs droits. Il y a des abus, on le sait. D'ailleurs, on demande plus de contrôle parce que il y en a qui respectent les règles et il faudrait qu'ils en tirent des bénéfices. Mais pour ça, il faudrait contrôler et assainir la profession. C'est une réalité. Les contrats courts, ça pose quand même un gros problème. Faut savoir que on a 9% des entreprises des hôtels, cafés, restaurants qui consomment des CDD de moins d'un mois. Donc on est face à des pratiques qui sont récurrentes dans certains établissements. Nous, à la CFDT, nous revendiquons le fait que les saisonniers aient des contrats plus longs qu'un mois, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut que le contrat dure l'ensemble de la saison. Et puis, on doit regarder à la fois le respect des horaires, mais aussi les conditions de logement. C'est pour ça qu'on travaille avec certains employeurs et certaines municipalités ou des communautés de communes pour du logement saisonnier. En tout cas, il y a énormément d'efforts à faire dans le secteur, on le sait. Et c'est dommage qu'il y ait autant d'abus parce que c'est une activité qui n'est pas délocalisable.
Didier Chenet, j'ai l'impression qu'on l'a déjà entendu tout ça et que il y a une forme de ménage, pardon de le dire comme ça, qui à bien des égards n'a pas été fait. J'ai une question de Joseph sous les yeux aussi qui parle notamment du personnel souvent rémunéré au black, comme il dit, c'est-à-dire des revenus non déclarés, et c'est aussi une réalité.
Non mais écoutez, je ne vais pas nier qu'il puisse y avoir bien entendu des écarts et des comportements qui sont tout à fait répréhensibles. Encore une fois, je vais vous dire, vous savez, ce genre de professionnels, j'appelle à peine des professionnels, de toute façon, ça se retourne toujours contre eux. Parce qu'à un certain moment, eh bien, ils ne trouveront plus de salariés, et puis ils auront effectivement des contrôles qui feront que, eh bien, ils seront amenés à payer des amendes, et tout ça est tout à fait normal. Je crois que c'est un autre problème qui vient d'être soulevé, qui est très important, c'est le problème du logement. Alors, c'est un problème pour les saisonniers, mais pas que pour les saisonniers. Et là-dessus, c'est vrai. Je peux vous dire que mon organisation, nous travaillons et nous louons près de 500 logements pour les salariés des adhérents qui sont à Paris, ce qui n'est pas rien, et qui nous permet, nous, si vous voulez, encore une fois, de proposer des loyers à des prix attractifs, puisque c'est environ 20% de moins cher que sur le marché. C'est aussi un des soucis. Mais encore une fois, c'est vrai qu'il y a encore du ménage à faire, très certainement. Vous savez, je pense que la crise Je pense que effectivement la pénurie de main-d'œuvre et le fait, vous l'avez dit, que les salariés, je ne sais pas s'ils ont la main, mais en tous les cas, aujourd'hui, seront plus regardants, fera que ça rentrera aussi certainement un peu plus dans l'ordre.
Bah, ils ont la main, non, Didier Chenet, qu'est-ce que vous en dites quand même aujourd'hui? S'il y a 200 000 emplois à pourvoir, ça veut dire que moi, si je suis aujourd'hui chef de cuisine ou serveuse, je viens et je dis dans quelles conditions vous me faites travailler? Donc c'est moi qui ai la main, non?
Oui, mais encore une fois, quand je dis ça, c'est pas. Je dirais qu'ils ont la main, très bien. Les clients ont aussi la main hein, sur un établissement. Faut pas l'oublier. Je dis simplement que si vous voulez, c'est à nous aussi. Encore une fois, nous avons eu à faire face à une des difficultés très importantes avec la crise du Covid. Elle a révélé et mis en exergue des situations très compliquées. Bon, et bien maintenant, à nous de prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et puis de faire en sorte que, effectivement, on retrouve nos salariés. Je voudrais dire une chose quand même, c'est ce de point positif tout à l'heure de Jean-Sébastien quand il disait j'aime mon métier, il y a une ambiance qui est quand même plus agréable me semble-t-il, mais pardon à la grande distribution, mais j'ai pas le sentiment que l'ambiance dans la grande distribution soit plus agréable que celle dans nos restaurants où effectivement il disait on fait la fête. Eh bien faisons en sorte que la passion qui nous a animés, parce que c'est cela en fait si vous voulez, c'est que on a beaucoup capitalisé sur la passion. Mais la passion, c'est pas une rémunération. Ouais. Donc voilà quelque chose qu'il faut. Et c'est une donnée des nouvelles générations. C'est comme ça. Ouais. Il faut les prendre en compte et il faut réagir.
Et effectivement, peut-être un peu.
Et nous allons réagir.
Et peut-être un peu contraint et forcé. En effet, regardez ce message sur Twitter avec le hashtag Telson de Maxime qui nous dit les restaurateurs ont été très bien protégés pendant la pandémie. Le juste retour des choses serait de faire travailler les salariés dans de nouvelles conditions. Olivier Guivarch, est-ce qu'on appuie là-dessus? En effet, oui, les restaurateurs ont été très bien sauvés pendant la période de la pandémie.
Ah oui, ça on l'a dit, et puis on l'a dit dans d'autres secteurs.
Hein. Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de secteurs économiques qui ont été préservés, et heureusement d'ailleurs, puisque les entreprises, il faut les aider. Mais il y a des contreparties ensuite, et en plus de ça, les aides n'étaient pas conditionnées. Alors maintenant, il faut faire des efforts un peu partout pour qu'il y ait plus de progrès social dans différents secteurs économiques. Je pense en particulier aux salariés de seconde ligne, des salariés invisibles, la propreté, la prévention sécurité, le commerce alimentaire. Mm-hmm. En tout cas, là, ce soir, on sait qu'il peut y avoir des évolutions favorables, mais il faut faire attention parce que on ne voudrait pas que certaines revendications soient abandonnées. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle de la coupure et on parle du repos le week-end. C'est essentiel encore une fois qu'il y ait des avancées concrètes et qu'il y ait de l'encadrement et des indemnisations. Et ensuite, il faudra parler du 13e mois et du dimanche. Ça reviendra parce que les salariés sont en droit d'avoir une convention collective plus attractive.
Et vous allez pousser, donc j'imagine, sur ce qu'était effectivement, on a bien entendu, les lignes rouges dont parlait Didier Chenet tout à l'heure. Je vous entendais réagir, Monsieur Chenet, quand on disait que les restaurateurs ont été bien servis pendant la pandémie, et c'est une réalité.
Mais les restaurateurs ont été bien aidés, mais les salariés aussi, ne l'oublions pas, la mise en place du chômage partiel avec le paiement à 100% pour les salariés, ça a été effectivement une aide considérable pour les salariés aussi. Faut pas l'oublier. Mais je ne nie pas que nous ayons été, je dirais, aidés. Mais faut pas l'oublier quand même cet aspect-là.
Alice est avec nous. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
On vous écoute Alice.
Ben, merci de prendre mon témoignage. Je rebondis sur ce que disait l'intervenant tout à l'heure, comme quoi la passion, ça ne fait pas le voyer. Mm-hmm. Mais moi, je suis venue sur la pâtisserie, parce que je suis pâtissière sur le tard, et je fais ce métier par passion, justement. Mais ce qui me... c'est pour ça que pour moi, le salaire, les horaires, c'est pas si... Enfin, c'est important, mais c'est pas si important que ça. Moi, ce qui me choque, surtout en France, parce que j'ai travaillé à l'étranger, ce qui me choque en France, c'est que, bon, certes, il y a la transmission du savoir-faire qui est très importante, mais il y a aussi une transmission d'une certaine mentalité que je trouve assez choquante. J'entends des jeunes apprentis à 15, 16 ans qui justifient les insultes et les mauvais traitements qu'ils reçoivent en disant « ça forme le caractère ». Mmh. Et je suis en formation et j'entends des collègues au CFA, au centre de formation, qui ont 20, 25 ans, qu'on forme à diriger des équipes et qui disent à la professeure de gestion que ce qu'on les explique en cours, c'est le monde des bisounours, que dans la vraie vie, on n'écoute pas l'opinion des équipes, ce que dit le chef, c'est ce qu'on fait. Et il n'y a rien à dire. Et si on ne se plie pas à ces règles, on lui dit qu'on n'est pas fait pour le métier et que si on se plaint, on ne risque pas de trouver du travail ailleurs. Il y a une espèce de menace sous-jacente. Et qui est, même dans les conditions idéales de travail, s'il n'y a pas un changement dans la mentalité, c'est normal que les gens se découragent et aillent vers d'autres industries.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Didier Chenem. En gros, ça existe. Si tu crains trop la chaleur, va pas en cuisine, quoi.
Non, écoutez, là-dessus, les mentalités ont énormément évolué. Moi, je préside un CFA à Paris, le CFA Médéric. Je peux vous dire qu'on est très vigilant sur effectivement le traitement qui est, je dirais, réservé à nos apprentis. Nous avons suffisamment de contacts avec donc ceux qui reçoivent nos apprentis pour veiller à ce que effectivement un certain nombre de comportements qu'on a pu connaître, que peut-être quelques apprentis connaissent, eh bien cessent. Nous sommes parfaitement, là encore, nous sommes très vigilants et nous sommes parfaitement conscients que tout ça, c'est une époque qui est totalement révolue.
Retour au standard, et c'est Morgane qu'on retrouve. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je vous remercie beaucoup de prendre notre appel, de pouvoir s'exprimer sur le sujet, c'est assez rare. Voilà, je tenais à dire, je voulais juste rebondir là sur votre intervenant qui parlait des apprentis. Les apprentis bossent quand même, faut le savoir, dans 80% des cas, 70, 80 heures des fois par semaine en étant payé le salaire qu'on connaît, hein, 400 balles. Donc leur condition, elle est pas forcément réglo du tout, c'est pas respecté. Enfin, voilà, juste une parenthèse là-dessus. Moi, ce que je tenais à dire quand même, c'était que c'est bien beau de vouloir avoir des avancées, des augmentations de salaire, des 13e mois, mais il faudrait peut-être éventuellement commencer par respecter le code du travail. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ne demandent que ça. Avoir des heures supplémentaires payées. Parce que quand on bosse 70 heures, on est payé 42. Je pense que ce serait déjà un bon début. Voilà. Je tenais juste à dire ça. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire parce que c'est loin, loin, loin de respecter, très, très loin, le code du travail dans la restauration. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça et voilà. J'arrive à un moment où c'est un petit peu compliqué de me projeter encore dans le futur, dans ce métier.
Merci beaucoup, Morgane. Respecter le code du travail, la région Morgane, Olivier Guivarche, ça commence aussi par là.
Oui, on commence toujours par là. C'est-à-dire que la CFDT, elle accompagne des salariés pour faire respecter le code du travail, pour faire respecter la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Mais ça ne doit pas nous décourager à négocier plus et mieux, et à faire en sorte que cette convention collective évolue, soit plus attractive et que les salariés se sentent mieux au travail.
Est-ce que Didier Chenet, dans le package, il peut pas y avoir aussi, et c'est ce que dit Morgane, un peu plus de contrôle aussi de on le disait, de ceux qui ne sont pas les bons représentants de la restauration. Il n'empêche que ça existe en effet, les heures dont parlait Morgane. Plus de contrôle, s'assurer qu'effectivement il peut pas y avoir des gens qui travaillent 60, 70 heures par jour en étant payés 42, etc., etc.
Non, mais qu'il y ait plus de contrôle, nous, ce n'est pas un problème pour nous. Je crois que nous, par contre, c'est de faire vraiment mettre tous nos efforts pour qu'un certain nombre de, j'allais dire, de brebis galeuses ne traitent pas le personnel comme ça. C'est ça le problème. On a, si vous voulez, nous sommes un métier qui est très en vue, donc évidemment, et qui suscite beaucoup, beaucoup de commentaires quant à la façon dont le personnel peut être, je dirais, traité. Je vous assure que je ne vais pas vous dire que c'est toujours, toujours, toujours le cas, mais vous avez vraiment des établissements où ça se passe très bien, dans la très grande majorité. Et tous les restaurateurs, ou tout du moins la quasi-totalité, ne sont pas là, ne pas respecter le droit. Donc, c'est tout. Je crois qu'il ne faut pas... Bon, je comprends qu'un certain nombre de personnes vous fassent état de ce qu'ils ont pu vivre. Mais je crois qu'il faut être raisonnable, il ne faudrait pas non plus faire un amalgame de quelques cas, ou du moins d'une petite partie d'un certain nombre de professionnels.
Arnaud, bonsoir.
Oui, bonsoir tout le monde.
Soyez raisonnable, Arnaud, mais on vous écoute.
Que je sois raisonnable. Non, passion, oui, effectivement, moi, métier passion, pour moi, c'est mon cas. Ça l'était pendant 25 ans. Et donc, au début du Covid, malheureusement, j'ai pris conscience d'une certaine vie de famille et j'ai arrêté. Je me suis orienté dans le BTP pour avoir une certaine situation familiale. Et je me suis rendu compte qu'on gagnait rapidement aussi vite qu'en cuisine par rapport au taux horaire. Et donc, j'ai voulu retourner au bout d'un an et demi, donc là, dans la restauration, Et donc là, moi, dans mon secteur qui est en Alsace, secteur très touristique, je me suis quand même beaucoup étonné des propositions de salaire que j'avais. Et voilà, au bout de 25 ans de métier, et voilà, j'ai vraiment pas un mauvais CV, et qu'on ose proposer pour des 70 heures des salaires de 1 700-1 800 euros net, c'est tout simplement honteux. Et je veux dire, là, moi, je vois pas l'aide du gouvernement, quoi.
Et vous, enfin, vous... Du coup, vous restez dans le BTP, Arnaud, vous avez...
Malheureusement, ouais. J'ai fait le choix de rester dans le BTP parce que, voilà, j'ai tellement de choses à dire que je me mélange un peu, mais voilà, donc je suis un chef d'un certain niveau. Je pouvais gagner, voilà, bon, en dessous de 2005, on n'en parle pas. Mais je vois qu'on arrive à se faire facilement le même salaire avec moins de pression, beaucoup moins d'heures par semaine. Et c'est là où je vois pas le geste de certains restaurateurs, en tout cas dans ma région.
Merci Arnaud pour ce témoignage, Olivier Guivarch. On comprend ce qu'il nous dit Arnaud, et en même temps c'est triste en fait de se dire que on préfère aller travailler vers un endroit qui est pas notre passion, mais c'est un choix raisonné effectivement que celui d'Arnaud.
Oui, ça doit nous faire réfléchir, ben ouais. Ça doit faire réfléchir les organisations patronales. Mais je pense que quand on écoute Didier Chenet, on peut tenter d'espérer des séances de négociation qui nous permettront d'avancer. Ce qui est important aussi, c'est pour la CFDT, c'est que les salariés aient le choix. C'est pour ça que la CFDT demande à ce que les salariés aient des droits qui soient, disons, acquis au niveau de leur personne et pas au niveau de l'entreprise. C'est pour qu'ils puissent aussi avoir un parcours professionnel. Tant que les salariés peuvent avoir le choix et peuvent évoluer professionnellement, eh bien, on arrivera à une situation plus favorable.
Parce que Didier Chenet, il y a l'idée de remplir les postes effectivement qui sont des postes vacants aujourd'hui, de redonner l'envie et de l'attractivité au métier, et puis il y a aussi faire rester les gens en fait, pour qu'ils n'aient pas envie d'aller regarder ce qui se passe à l'extérieur dans d'autres métiers où ils réalisent subitement, et c'était le cas de notre ami Arnaud à l'instant, que en travaillant moins d'heures, on gagne finalement plus d'argent.
Écoutez, je suis pas convaincu que encore une fois, ils gagnent moins. Et puis quand j'entends parler de 70 heures, je voudrais quand même pas que on s'imagine que c'est la règle dans notre métier. Mais encore une fois, oui, je le dis et je le redis à Olivier Guivarch. De toute façon, il sait très bien que c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis de son organisation et des autres, je dirais. Mais en tous les cas, de son organisation, puisque je le dis encore une fois, ils ont eu la responsabilité, donc l'engagement de signer cette grille de salaire. Je dis simplement que, oui, les conditions de travail, on en est encore une fois parfaitement conscient, la qualité de vie au travail, c'est une donnée qui est incontournable, en tous les cas, pour les jeunes générations. Et aujourd'hui, nous avons donc à en tenir compte, ce qui n'était encore une fois pas forcément, et loin de là, le cas il y a quelques années. Ouais. C'est tout, c'est un constat. C'est tout. Il ne faut pas se dire « Ah, c'était mieux avant ». C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, les générations qui viennent, effectivement, ont, une vue de la vie qui est différente, et il faut savoir y répondre, ce qui n'est pas simple.
Et pour que le coup, effectivement, tant mieux de ce point de vue-là, Olivier Guivarch, vous le voyez, vous aussi, cette différence générationnelle, en fait, tout simplement. Les jeunes qui arrivent sur ce marché du travail ne sont pas comme ceux qui, finalement, dans les générations précédentes, disaient, bah, puisque c'est comme ça, j'accepte, et puis je ne discute pas, en fait.
J'entends, mais je crois que c'est l'ensemble des salariés du secteur qui prennent conscience que quand même il y a des choses à faire évoluer. Je ne sais pas quel âge notre auditeur Arnaud a, mais il parlait de métier passion. Il parlait aussi de vie de famille, donc en fait les salariés voudraient aussi pouvoir concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle. C'est le cas à toutes les générations. Donc je pense que il y a des mentalités à faire évoluer. La société change, c'est vrai. C'est pour l'ensemble des salariés qu'on doit apporter de meilleures conditions de travail. C'est ça le plus important. Il y a beaucoup d'attentes. Et donc il faut absolument négocier des dispositions, des contreparties, de l'encadrement et des indemnisations.
Est-ce que vous diriez qu'on a notre part aussi, nous, consommateurs, de voir aussi les choses différemment lorsqu'on s'attable dans un restaurant, dans un café, etc. Est-ce que nous aussi, il y a des choses qu'on devrait voir et qu'on ne voit pas ou pas ?
Ah, c'est sûr qu'à la CFDT Service, on s'occupe des salariés qui sont au contact du public, au contact de la clientèle dans le secteur privé. C'est quelque chose qui est très prégnant. C'est-à-dire c'est-à-dire que on a aussi des salariés qui sont confrontés à des clients pas toujours corrects, c'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes, mais cela dit, les efforts doivent être portés par les employeurs, par les organisations patronales. Je ne crois pas que le salut des conditions de travail des salariés des hôtels, cafés, restaurants se situe dans des changements de la part de la clientèle. C'est à l'employeur aussi de faire attention à l'environnement professionnel de ses salariés et à faire en sorte que les clients se comportent correctement.
Il nous reste peu de temps, mais on a du temps pour vous. Yannick, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Alors, je suis directeur général d'un hôtel 5 étoiles en région parisienne. Et je voulais réagir parce qu'il y a beaucoup de commentaires assez défavorables sur la profession et ça m'attriste un petit peu. Parce que je pense que notre profession n'a pas attendu avant d'agir. Enfin, je vais donner des exemples concrets, mais les jours de repos consécutifs, les heures de travail parfaitement respectées, j'entends des 70 heures, des 80 heures, enfin, ça fait très longtemps que je n'entends plus parler de ça dans l'univers dans lequel je travaille. Aujourd'hui, moi, dans mon entreprise, les salariés, ils pointent. C'est-à-dire que chaque heure, chaque minute est récupérée et indemnisée. Et c'est un autre métier dont j'entends parler. Et enfin, vous parliez de qu'est-ce qu'on fait pour garder les salariés dans nos professions. Je pense qu'il n'y a pas d'autres professions aujourd'hui qui propose un ascenseur social comme celui des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, et je pense que ça doit être beaucoup plus mis en avant aussi.
Merci Yannick pour cette remarque. Et au fond, Didier Chenet, bien sûr qu'il a raison Yannick, il y a évidemment des établissements où les choses se passent bien, mais précisément la difficulté aujourd'hui, de ce que je comprends des appels qu'on a eu ce soir, c'est qu'il y a un décalage parfois qui est phénoménal entre des endroits comme celui de Yannick, alors qu'il dirige un hôtel 5 étoiles, donc on peut imaginer aussi ce que ça veut dire, et d'autres établissements où forcément les gens vivent leur salariat dans des conditions bien différentes.
Oui, je ne le conteste absolument pas, mais Yannick disait effectivement notre métier. Vous savez que nous avons été la première branche à rendre la mutuelle frais de santé obligatoire en 2009. C'était une avancée considérable. Aucune branche n'avait signé ce genre de... Mais c'est pour vous dire, quand on dit qu'on est un peu rétrograde ou que on considère mal nos salariés, non. Vous voyez, la santé des salariés, ça aussi, on n'en a pas parlé. Mais c'est quelque chose qui nous importe et qui nous préoccupe vraiment de façon tout à fait forte.
Olivier Guivard, je vous le dites, il va y avoir d'autres rondes de négociations. On a bien entendu les points qui étaient des points d'achoppement. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent de la part des patrons de restauration autour des marges de manœuvre qui sont faibles, autour de l'inflation qui monte, autour de l'énergie, des matières premières, etc. Est-ce que ce sont les arguments que vous entendez autour desquels il va falloir aussi travailler?
Ce qui est sûr, c'est que c'est de l'artisanat. Donc on a des employeurs qui sont tout à fait vertueux. On a des employeurs qui sont très proches de leurs salariés. On a des établissements qui font beaucoup d'efforts. On a des témoignages qui nous remontent d'employeurs qui voudraient que les organisations patronales évoluent et fassent en sorte que les conditions de travail soient améliorées, que les salaires soient augmentés. Je pense que c'est aussi un examen de conscience de la part de toutes les organisations. Encore une fois, il y a beaucoup d'attentes. Il va falloir y répondre concrètement.
Beaucoup d'attentes, vous le disiez. Il y a eu un premier round de négociations autour des conditions de travail. Encore une fois, il y en aura un autre au mois de mars, il y en aura un autre au mois de mai. Ce sera l'occasion d'y revenir avec grand plaisir ici au téléphone sonne. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous pour vos très nombreux appels.